scandale absolu, une situation où tout se dégrade sournoisement, une grande mystification, un système enkysté, un gâchis, une vision consanguine. Dans un entretien au Monde, les mots de l'ancien ministre de la Ville cognent. Un constat abrupt a d'ailleurs estimé hier Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, qui appelle malgré tout à des actions nouvelles. Présenté hier, le plan de Jean-Louis Borloo pour les banlieues appelle effectivement à la mobilisation nationale dans une démarche qui associerait associations et élus des quartiers réunis hier pour les états généraux de la politique de la ville. Plusieurs élus avaient menacé de démissionner derrière Stéphane Gatignon, maire emblématique de Sevran, qui expliquait récemment.
Un des enjeux, ça va être de redonner confiance. Et je pense aussi, derrière tout ça, il y aura l'idée qu'il faut aussi une forme de révolution culturelle, notamment des services de l'État, pour appréhender les choses différemment, ouvrir. Moi, je vois, on peut pas continuer de dire dans des villes comme Sevran, faut simplement faire du logement social. On se bat, par exemple, sur la deuxième résidence étudiante, sur un nouveau quartier, et on nous bloque en disant, mais monsieur le maire, pourquoi vous restez pas sur du logement social et tout? Si on veut péter le ghetto, il faut mixer tout ça. On peut pas continuer de mettre les plus pauvres, les plus fragiles ensemble, c'est pas possible.
Alors Jean-Louis Borloo va-t-il péter le ghetto? Pour en parler, un spécialiste des politiques urbaines, le sociologue Thomas Kirschbaum, chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique rattaché à l'ENS Cachan et à l'Université Paris-Ouest. Il a co-dirigé l'ouvrage En finir avec les banlieues aux éditions de l'Aube. Bonjour à vous Thomas Kirschbaum.
Bonjour.
19 propositions dans ce plan Borloo et plusieurs fronts ouverts dont l'emploi, l'éducation, la mobilité. Est-ce qu'il y a une vraie nouveauté pour vous dans ce plan?
Ce plan, on peut le regarder de au moins trois façons différentes, il me semble. Tout d'abord, quelle est la nature de ce texte? Ça ressemble à une plateforme syndicale des maires de banlieue. On sait que le rapport Borloo, il est issu de toute une dynamique que vous venez de rappeler, celle des maires qui se sont mobilisés dans le cadre des états généraux, ce qu'on a appelé l'appel de Grigny. Et donc il y a une petite musique insistante des maires depuis quelques mois sur le thème « Attention à l'apocalypse si on ne satisfait pas nos revendications », qui sont en fait pour l'essentiel des revendications sur les moyens de l'État. Et en arriver à dire « aidez-nous, c'est le plan de la dernière chance, sinon c'est l'explosion », d'une certaine façon, c'est l'aveu d'une très grande faiblesse de ces maires de banlieue dans leur capacité à accéder aux ressources de l'État. Et par parenthèse, il y a aussi une instrumentalisation un petit peu paradoxale de la menace de l'émeute, de la menace du terrorisme, qui sert d'argument finalement pour demander à l'État d'intervenir. Voilà, tout cela.
Il y a une forme de chantage, c'est ce que vous nous dites, Thomas Kirschbaum, mais qui n'est pas forcément injustifié.
Non, qui n'est.
Donc, est-ce qu'on discute de la méthode ou est-ce qu'on va. On discute un peu d'abord de la méthode avant de passer au fond. C'est une bonne idée. Le ton pour vous de ce plan, donc déjà le discours qu'il inclut, vous surprend quand vous dites plateforme de.
Plateforme syndicale, je disais. En même temps, il y a une certaine habileté de Jean-Louis Borloo parce que il va mettre Macron au pied du mur. Borloo n'ignore pas davantage que les maires de banlieue, que le pouvoir actuel est relativement indifférent au sort des derniers de cordée et des habitants des quartiers populaires en particulier. Du coup, le rapport va obliger Borloo à sortir du bois, à sortir du registre dans lequel il excelle, qui est celui de faire d'excellents discours, comme il l'a démontré à Tourcoing en novembre dernier. Et du coup, la méthode, elle est assez singulière, c'est-à-dire c'est pas un rapport comme on en a connu jusqu'à présent, en fait c'est une feuille de route pour l'État, décliné en 19 programmes, vous l'avez rappelé, et avec cette particularité d'avoir un chiffrage de chacun des programmes. Et ça va permettre aux maires, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, de pouvoir se tourner vers Macron en disant bah, « voilà ce que l'État a fait ou n'a pas fait pour nous ». De façon presque exclusive sur la mobilisation des moyens financiers de l'État. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de silences dans ce rapport qui sont particulièrement éloquents, notamment sur ce que fait l'État d'un point de vue qualitatif, en particulier à travers les deux grands services publics de l'État qui sont en première ligne dans les quartiers populaires, que sont la police et l'éducation nationale, où là, on n'interroge pas du tout les modes d'action de ces institutions en direction des populations.
Si on fait un peu de politique fiction, si on se dit que ces 19 programmes thématiques étaient réellement mise en œuvre, que le gouvernement suivait ce plan Borloo. Est-ce que d'ici 5 ans, la situation dans les banlieues aurait changé ? Aurait-elle vraiment la possibilité de changer à travers ce qui est dit, ce qui est décliné dans ces 19 mesures thématiques ?
Alors, à l'évidence, il y a plein de bonnes choses dans ce rapport. Il y a plein de mesures qui sont proposées qui seraient extraordinairement bénéfiques pour les quartiers populaires. Ce qu'il y manque principalement, à mon sens, au-delà de ce que je viens de signaler, c'est finalement une approche de l'action publique dans les territoires. Là, on est dans la déclinaison de programmes étatiques qui vont s'imposer dans les territoires et qui vont finalement permettre de compenser un manque de moyens qui est criant. Personne ne le nie aujourd'hui, à part ceux qui attisent le conflit.
Ça veut dire quoi, une action publique ? Ça veut dire quoi de plus que ça ?
Une action publique, c'est concrètement comment vous négociez en fonction des situations territoriales, en fonction du diagnostic que vous faites d'une situation, la nature des réponses à mettre en œuvre. Là, on est dans une logique complètement verticale, où la réponse est définie au niveau central par l'État et doit ensuite se décliner dans des territoires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, je ne veux pas m'inscrire dans ce jeu de la politique fiction, parce que je suis très sceptique par rapport aux chances de voir ces 19 propositions et ces 10 milliards d'euros annuels supplémentaires mobilisés en faveur des quartiers. C'est là que le bât blesse dans ce rapport, puisqu'il est entièrement tourné vers une logique de demande de moyens financiers. Macron l'a dit lui-même, il n'y a pas d'argent magique. Et pourquoi demain assumerait-il vis-à-vis des 90% de Français qui n'habitent pas dans les quartiers populaires, le fait de faire un effort considérable en direction de ces quartiers? On sait depuis toujours que les choix politiques qui sont faits en direction des banlieues sont très fortement inhibés par l'appréciation d'un risque politique, qui est celui d'attiser le ressentiment de la France qu'on appelle aujourd'hui périphérique, à mon avis à tort, et qui aurait des pulsions identitaires qui seraient exacerbées à chaque fois que l'on annonce un effort en direction des banlieues. Donc, je ne pense pas qu'on sortira d'une forme de consensus implicite qui existe depuis une quarantaine d'années en France, qui fait qu'on fait le strict minimum à travers la politique de la ville pour ces quartiers, le strict minimum, juste pour éviter l'explosion sociale.
Alors, il n'y a pas d'argent magique, aurait dit Emmanuel Macron. Il y a peut-être, en revanche, une pensée magique. Et peut-être, à travers ce plan Borloo et la voix que donne l'ancien ministre de la Ville aujourd'hui, de quoi réveiller quand même un nouvel élan et un intérêt en direction des quartiers difficiles ou non, qui en ont besoin.
C'est certain, il faut prendre positivement ce rapport, la dynamique qu'elle suscite et surtout la façon dont elle va interpeller l'État. Après, il y a des choses qui tiennent à la personnalité de Borloo lui-même et je crois que c'est intéressant également de le mettre en évidence. Bon, si je voulais lui adresser une petite pique, je dirais que il y a un peu de vanité dans son rapport, puisque dans le bilan qu'il fait de la politique de la ville, finalement, ce qui n'a pas fonctionné, c'est tout ce que l'on a, c'est le manque de constance dans la mise en œuvre des actions qui avaient été décidées par le même Jean-Louis Borloo il y a une quinzaine d'années. Avec également une très nette surestimation des effets positifs de son principal programme qui a été la rénovation urbaine. Donc pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers, je rappelle que c'est l'opération qui consiste à démolir des logements sociaux et à y reconstruire un habitat diversifié, ainsi qu'à intervenir sur les espaces publics et les équipements. La rénovation urbaine, on le sait, a fortement déstabilisé l'action sociale dans ces quartiers. Elle a créé toute une série d'effets pervers et certains prétendent même qu'elle a joué un rôle dans le déclenchement des émeutes de 2005. Mais au-delà de ça, il me semble que le rapport, il est un peu à l'image de son auteur. C'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu confus par endroits, mais en même temps, c'est résolument tourné vers l'action. C'est le désir de faire, et ça cadre très bien avec l'image que l'on a de Jean-Louis Borloo, entrepreneur politique, avec également quand même un zeste de populisme, je dirais. C'est l'idée que si on veut, on peut, et que ceux qui risquent d'empêcher de faire, c'est d'une part les technocrates, et d'autre part les experts. Hein, la première phrase du rapport, c'est « l'heure n'est plus au rapport d'experts, l'heure est à l'action ». Et là, c'est un vrai problème, parce que si on disqualifie la connaissance des phénomènes, la connaissance des mécanismes qui produisent les situations dans ces quartiers, ben on se prive quand même d'un outil très important pour mener l'action. Or, le rapport lui-même, finalement, il ne parle que des quartiers qui vont mal, mais il n'explique pas du tout pourquoi. Il ne replace pas la question des quartiers dans leur environnement plus global, dans les dynamiques de la ville, dans les dynamiques de la société, dans le fonctionnement des institutions.
Et ça, peut-être je pense les différentes dynamiques d'un quartier à l'autre qui peuvent être là encore très différentes.
Absolument.
Et juste pour le citer dans Le Monde sur cette question, parce que c'est vrai qu'à le lire ou à l'entendre, on dirait que rien n'a été fait, rien n'a été réussi depuis même 40 ans de politique de la ville. Il dit, c'est la grande mystification quand on dit qu'il s'agit peut-être d'un énième plan banlieue et que l'État va de nouveau dépenser des milliards sans résultat. Il dit la vérité, c'est qu'aucun plan n'a jamais été mis en place, donc peut-être même pas le sien. Et moins on en a fait en matière de politique de la ville, plus on a annoncé de dispositifs, de chiffres et de politiques prioritaires. On a remplacé les moyens publics par les annonces publiques. C'est vrai ça ?
Oui, c'est pas faux. C'est pas faux de dire que on s'est un peu gargarisé dans la politique de la ville, d'effets d'annonce. Je rappelle, on va faire un plan Marshall pour les banlieues, etc., suivi de mesurettes qui ne se sont nullement attaquées aux causes structurelles de la situation de ces quartiers. Si vous me permettez, sur le plan Borloo, il y a quand même un autre élément qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici et qui est là aussi très significatif parce qu'on le lit en creux du rapport. C'est l'absence totale d'un acteur, les habitants eux-mêmes. D'une part, si on regarde qui a été auditionné dans le cadre de ce rapport, ben on se rend compte que ceux qu'on appelle aujourd'hui les concernés n'ont pas été sollicités. Mais d'autre part, il me semble, et là il y a peut-être un décalage entre l'esprit du rapport Borloo et un certain esprit du macronisme qui fait le pari de la mobilisation de la société civile. Borloo, en tant que grand chef syndical des maires de banlieue, adopte le point de vue de ces maires de banlieue, pour qui la question de la participation citoyenne n'a jamais été une priorité, en tous les cas, pensée comme un facteur essentiel de résolution des problèmes. Or, c'est quand même très problématique, parce que là, on est en rupture avec la période François Hollande, ou du moins quand François Lamy était ministre de la Ville, il a quand même, c'est à mettre à son crédit, beaucoup œuvré pour essayer de mettre sur l'agenda politique la question de la participation citoyenne. Et on peut se demander quelles sont les chances de réussite de la mise en œuvre des propositions du rapport Borloo s'il n'y a pas des citoyens organisés qui sont capables de peser et d'interpeller l'État sur ses orientations qui restent structurellement inégalitaires.
Antoine, oui, merci. Une question. Là, je résume un peu ce que vous venez de dire. Tous ces plans, et notamment le dernier, visent plutôt à soigner les symptômes et ne va pas s'attaquer aux causes structurelles.
On peut le dire comme ça.
Donc, ce qui serait intéressant, peut-être que vous nous disiez rapidement, c'est précisément quelles sont ces causes structurelles et qu'est-ce qu'il conviendrait de faire pour s'y attaquer véritablement.
Bon. La politique de la ville, c'est une réponse à une situation de ségrégation urbaine, c'est-à-dire de concentration de populations qui présentent des caractéristiques plus ou moins semblables en termes de pauvreté économique et, d'appartenance à des groupes minorisés plus importantes que dans d'autres territoires. Face à une situation de ségrégation, hélas, il n'y a pas de recette miracle. Jusqu'à présent, on a déployé ou tenté de déployer trois types de réponses. Et l'un des grands problèmes, c'est qu'on ne les a jamais articulées les unes avec les autres. Ces trois réponses, c'est la première consiste à dire, finalement, faisons du problème de la ségrégation une solution, au sens où l'on va penser le quartier ou le territoire comme un espace de mobilisation collective. Donc ça, c'est le registre de la participation citoyenne. Ça, c'est un premier type de réponse qui est largement mise en œuvre, développée dans d'autres pays que la France. En France, on est resté sur une approche très statocentrée, sur un dialogue exclusif entre l'État et les maires ou les collectivités locales. La deuxième réponse, c'est celle qui consiste à dire Le problème des quartiers, c'est pas les quartiers eux-mêmes, c'est en réalité, c'est ce qui se passe autour. Ce sont des quartiers qui sont les symptômes de dysfonctionnements plus globaux. Et là, il y a eu un second mot d'ordre dans la politique de la ville, que dans le jargon, on appelle mobiliser les politiques de droit commun, à la fois en quantité et en qualité, pour les amener à faire à la fois un effort prioritaire en termes de moyens, mais également à repenser dans leur fonctionnement ce qui produit de la ségrégation, ce qui produit du tri, de la mise à l'écart, de la marginalisation de certaines populations. Et puis la troisième méthode, qui a été celle promue par Borloo lui-même à partir du début des années 2000, c'est celle qui consiste à dire, bon, finalement, la participation des habitants, c'est du bricolage, ça ne pourra pas changer grand-chose. Et puis la mobilisation des politiques de droit commun, on voit bien que ça ne marche pas, puisqu'on l'invoque de façon incantatoire depuis, à l'époque, depuis déjà au moins une quinzaine d'années. Donc la solution préconisée par Borloo, c'était un changement beaucoup plus radical, consistant à dire, on va changer la population de ces quartiers. On va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, on va démolir, on va disperser les gens, et on va en faire des quartiers normaux. Des quartiers dont on ne verra plus la différence, cette différence étant apparente par précisément l'origine.
On appelle péter le ghetto, ça c'est ça.
On va faire péter le ghetto. Or, l'un des grands problèmes de la politique de la ville, c'est que ces trois types de réponses, soit elles n'ont pas été pleinement mises en œuvre, comme la participation citoyenne, où là en France on est quand même à la traîne de la plupart des autres pays, pour des tas de raisons que l'on pourrait développer, mais surtout elles n'ont pas été articulées les unes avec les autres. Or, participation citoyenne et mobilisation des institutions, ça ne peut pas être pensé de façon dissociée. Il faut que les citoyens aient leur mot à dire sur la marge des services publics, sur les traitements dont ils sont l'objet par les institutions, et qui bien souvent sont des traitements inégalitaires. On ne peut pas penser la mixité uniquement comme un processus exogène où on va apporter une population nouvelle et si possible plus blanche dans ces quartiers. Il faut prendre appui sur les ressources qui existent dans ces quartiers, et il y a des classes moyennes dans ces quartiers. Il faut s'interroger sur comment on les retient dans les quartiers alors qu'elles sont tentées dessus. Et puis en dernier lieu, comment on articule la logique de la rénovation urbaine avec celle de la mobilisation des institutions, c'est tout l'enjeu de ce que les élus en général appellent l'urbain et l'humain, où là précisément le rapport Borloo apporte un possible rééquilibrage très, très intéressant.
Oui, ce rapport aussi évoque, parce que aujourd'hui, du côté du gouvernement, on prend aussi déjà un tout petit peu ses distances avec ce plan Borloo, en rappelant qu'il n'est qu'un rapport, donc vous n'êtes pas le seul à être sceptique, et en rappelant aussi qu'il y a un ministre en place pour ces questions de territoire, et que Borloo n'en a pas pour l'instant ni le titre ni la fonction. Voilà, donc il a été consulté, il a ramené ses infos, et puis maintenant c'est au gouvernement de faire ce qu'il veut à partir de tout cela. Vous êtes avec nous, Thomas Kirschbaum, jusqu'à 13h30. On parle aujourd'hui de ce plan Borloo pour les banlieues. Vous êtes le co-auteur ou le co-directeur de En finir avec les banlieues. On va voir si on arrive jusqu'au bout de cette question d'ici 13h30.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Derrière le hashtag « Nous sommes tous Gatignon », comme le maire de Sevran, qui était donc démissionnaire en mars dernier, des élus dénoncent le mépris de l'État et l'insuffisance des politiques publiques. C'est ce que dénonçait ou pointait déjà sur notre antenne à l'automne dernier Naïma M. Fadel, adjointe au maire de Dreux.
Je pense qu'au bout de 40 ans de la politique de la ville, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème, que ça ne fonctionne pas vraiment, qu'aujourd'hui l'insertion sociale, culturelle, etc., tant attendue par la politique de la ville, qui devait travailler aussi sur les difficultés d'échecs scolaires, d'échecs éducatifs, de sécurité, etc., aujourd'hui, malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, est-ce que le dispositif est toujours à l'heure? Est-ce qu'on ne peut pas le revoir? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de revoir cette politique dans une démarche globale, dans une démarche de cohésion aussi nationale? On est quand même aussi traversé par des enjeux dans notre pays. Et aujourd'hui, il est temps, parce qu'on est le pays fracturé, il y a une fracture sociale, culturelle, ethnique, elle est réelle. On n'est plus dans le vivre ensemble aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comment la politique de la ville peut être repensée? Je rejoins M. Machmash dans le sens où on met au centre l'humain, où on met au centre les citoyens, tous citoyens confondus.
Voilà, il y a plusieurs questions abordées dans ce témoignage, mais notamment aussi celle du champ de bataille. Est-ce que il est social avant tout? Est-ce que la bataille est culturelle, comme le disait tout à l'heure Stéphane Gatignon? Quand Emmanuel Macron parlait, lui, en novembre dernier, dans son discours à Tourcoing, de rénovation morale, on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs dimensions dans lesquelles il faudrait faire péter le ghetto, et notamment dans les têtes aussi, ce que vous évoquiez à l'instant, Thomas Kirschbaum.
Oui. Alors, l'un des grands problèmes du diagnostic que l'on peut faire sur la question des banlieues, c'est que il y a pas de convergence. On voit bien que entre ceux qui défendent une approche, disons, culturaliste ou culturalisante de la question des quartiers, ceux qui sont dans une lecture strictement socio-économique, plutôt dans une tradition, disons, post-marxiste de la question, et puis ceux qui sont sur une lecture plutôt ethno-raciale des choses. Alors, moi, si vous me demandez mon avis personnel sur ce sujet, je serais plutôt à mi-chemin entre les deux dernières lectures. Je pense que c'est stérile de dissocier les enjeux socio-économiques, qui sont absolument réels, des enjeux ethno-raciaux, dont le déni est porteur d'une véritable incapacité à transformer les choses. Et je pense ici en particulier aux enjeux de lutte contre les discriminations, où l'on demande à la politique de la ville de faire des choses que, de façon chronique, elle s'avère incapable de mettre en œuvre, c'est-à-dire à mettre en place des plans territoriaux de lutte contre les discriminations. Bon, il faut déjà commencer par reconnaître le problème. Et dans le rapport Borloo, il y a une phrase qui m'a fait bondir, disant « tout le monde est d'accord avec le constat suivant, les discriminations sont avant tout sociales ». Voilà, donc c'est une façon de tuer le sujet en prétendant s'y affronter. Donc, on ne peut pas dissocier des enjeux proprement socio-économiques d'enjeux ethno-raciaux et puis d'enjeux proprement urbains. Mais là, il faut se demander, c'est quoi l'urbain? Quelle est son autonomie relative par rapport aux autres enjeux? Et c'est là, il me semble qu'en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, aux États-Unis aussi, on est très largement dans une surestimation de ce que l'on peut attendre de la politique urbaine. Fondamentalement, la ségrégation, les situations de pauvreté concentrées dans certains territoires, c'est le reflet des inégalités qui sont à l'œuvre dans la société. Et donc, on attend de la politique de la ville qu'elle résolve des questions de pauvreté en particulier, et elle n'est absolument pas outillée pour le faire. Si on voulait permettre à ces gens de sortir de la pauvreté, il faudrait faire de la redistribution sociale. Or, on sait bien que ça n'est plus à l'ordre du jour depuis 30 ou 40 ans.
Vous avez dit tout à l'heure, ce qui est à l'ordre du jour, c'est éviter le risque d'explosion sociale. Ouais. Sur ce plan-là, qu'est-ce que ça signifie, l'explosion sociale de ces quartiers?
Une des particularités de la politique de la ville, mais ça n'est pas la seule, la politique agricole, d'une certaine façon, lui ressemble à cet égard, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialectique de la révolte et de l'annonce de mesures. D'ailleurs, avec un traitement qui n'est pas du tout le même quand il s'agit de paysans qui brûlent une préfecture, par exemple, ou le Parlement de Bretagne, il y a une vingtaine d'années, je crois, et des jeunes des quartiers qui font brûler des voitures. Hein, la sollicitude étatique n'est pas du tout la même dans ces deux cas de figure. Donc, on est pris depuis presque 40 ans dans cette dialectique de l'émeute et de la réponse à l'urgence, mais précisément se contenter de répondre à l'urgence par des effets qui ont souvent été des effets d'annonce ne permet pas d'engager des transformations plus structurelles.
Et là, on a avancé, selon vous, dans la dégradation par rapport aux émeutes dernières?
Il y a annuellement un observatoire national qui publie un rapport, lequel rapport tente à montrer année à année que si la situation ne s'est pas dégradée, en tous les cas, elle ne s'est pas améliorée depuis maintenant une douzaine d'années. Alors, sur ce sujet, il faut être quand même extrêmement prudent, puisque on se sert généralement de ces constats pour instruire le procès de la politique de la ville. Or, la responsabilité propre de la politique de la ville, elle est à relativiser fortement dans ces phénomènes. On sait bien que si la situation se dégrade dans des quartiers, ça peut être tout simplement le résultat du climat économique d'ensemble. Alors les Anglo-Saxons, ils ont une expression, les Américains, ils disent last hired, first fired. Ça veut dire que les habitants de ces quartiers sont les derniers à être embauchés, mais les premiers à être virés lorsqu'on entre en période de récession. Le deuxième facteur, c'est ce que font toutes les autres politiques publiques que la politique de la ville. Je rappelle que la politique de la ville, c'est 0,3% du budget de l'État. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'infinitésimal. À l'échelle d'un quartier, les dépenses correspondant à la politique de la ville, c'est quelques dizaines d'euros par habitant et par an. Si on met ça en rapport avec les transferts sociaux ou avec le fait de construire un rond-point, on n'est plus du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc c'est les autres politiques publiques qui doivent être interpellées, interrogées sur la dégradation de la situation. Et puis, en dernier lieu, il y a un phénomène qui est absolument décisif, souvent peu compris par le grand public, c'est la question de la mobilité résidentielle. C'est-à-dire que quand on raisonne sur 40 ans de politique de la ville, on adopte le plus souvent un raisonnement, je dirais, statique et statistique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des indicateurs, soit qui n'évoluent pas favorablement, soit qui se dégradent. Mais les gens qui vivent aujourd'hui dans ces quartiers, ce n'est pas ceux qui y habitaient il y a 40 ans. Chaque année, il y a des gens qui entrent et il y a des gens qui sortent de ces quartiers. Donc d'une certaine façon, ces quartiers, ils jouent une fonction, qui est une fonction d'accueil résidentiel, puisque ceux qui entrent en général sont en moins bonnes conditions que ceux qui en sortent. Si ils vont dans ces quartiers, c'est parce qu'on y trouve, pour l'essentiel, l'offre de grands logements sociaux. Et tant que ces grands logements sociaux seront concentrés dans ces quartiers, la situation perdurera. Et ceux qui sortent, ça montre bien que il y a quand même de la promotion sociale, on n'est pas dans une reproduction intergénérationnelle de la pauvreté qui est absolue. Certes, il y a ces mécanismes de reproduction.
Mais vous avez des chiffres sur cette mobilité là, par exemple?
Pardon?
Vous avez une idée de cette mobilité? On a des chiffres, on a alors, des estimations, parce que ça serait intéressant de voir le taux de précisément de renouvellement.
Oui, alors si après apprécier la mobilité sociale, il y a plein de critères possibles pour cela. Ce que l'on sait à grands traits, c'est que moi, je le vois, je donne des cours à Nanterre, j'ai plein d'étudiants qui viennent de ces quartiers dits prioritaires, donc ils vont à l'université, donc ça montre bien qu'on n'est absolument pas dans une situation de ghettoisation absolue avec des gens qui sont enfermés pour l'éternité dans ce type de quartier. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a aussi des phénomènes de reproduction intergénérationnelle de la pauvreté et que ça interroge. Il y a des phénomènes d'enfermement, d'assignation à résidence et c'est ça qui plaide pour analyser, pour agir à une échelle beaucoup plus large que les quartiers eux-mêmes. Et c'est ça que je reproche au rapport Borloo, c'est d'être, comme c'était le cas en 2003 lors de sa grande loi qui a mis en place la rénovation urbaine, c'est d'être polarisé sur des micro-échelles, l'échelle des quartiers, et de ne pas appréhender ces phénomènes de façon beaucoup plus large et globale.
Et justement, est-ce qu'on peut imaginer un jour dépasser aussi la concurrence des territoires? Ça, c'est quelque chose que Jean-Louis Borloo rappelle et qui est intéressant. On a l'impression que si demain ce plan banlieue était appliqué, il faudrait tout de suite qu'il y ait un plan ruralité. Oui. Il évoque ces univers délaissés, l'outre-mer contre les quartiers, l'urbain contre la ruralité. Est-ce qu'une fois on peut arrêter de penser territoire par territoire, oui, pour essayer d'imaginer un projet plus global et là vraiment une mobilisation envers des territoires sans les étiqueter?
Oui. Moi, je pense que Borloo a raison dans le constat, mais que la réponse est ambiguë. Il a raison dans le constat parce qu'il y a un effort tout à fait louable dans ce rapport, justement, d'éviter l'affrontement stylisé entre les quartiers populaires, les banlieues qui seraient l'objet d'un traitement de faveur depuis 40 ans, ce qui est une idée totalement farfelue au regard de la réalité de ce qu'on sait, de ce qui est investi par la puissance publique dans ces quartiers. Aux autres territoires, alors là, oui, les catégories sont un peu floues. L'outre-mer, on voit à peu près ce que c'est, mais quand on parle de territoire périphérique, là, on est assez peu dans l'analyse géographique ou sociologique. Donc le constat est juste, il faut sortir de cette spirale d'affrontement qui est largement fabriquée par un certain nombre de médias et de leaders politiques qui passent leur temps à opposer le vrai peuple des oubliés de la République et puis ces minorités qui vivraient au crochet de la République et qui seraient en quelque sorte les territoires perdus. Donc là-dessus, on ne peut que lui donner acte de ce diagnostic. Par contre, la réponse... elle est floue parce que, d'une certaine façon, ce que le rapport cherche à mettre en œuvre, c'est bien une politique qui reste ciblée sur des quartiers qui sont définis dans le cadre de ce qu'on appelle une géographie prioritaire d'intervention de l'État, pardonnez le jargon technocratique. Alors, à certains endroits, on lit que on pourrait mettre en œuvre telle ou telle mesure d'abord dans ces quartiers et puis progressivement l'étendre à d'autres territoires. Mais bon, on voit bien que là, la méthode n'est pas extrêmement précise. Il y a aussi une proposition qui est intéressante, même si je trouve qu'elle est mal fagotée dans le rapport, c'est l'idée d'une cour de justice de l'équité territoriale. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, pour le coup, même si on peut être quand même très perplexe par rapport à l'idée de judiciariser la question de l'équité territoriale, puisque ce qui est proposé dans le rapport, c'est de pouvoir condamner des responsables administratifs qui n'auraient pas rempli leurs obligations vis-à-vis de tel ou tel territoire. Voilà, potentiellement, je trouve ça intéressant, parce que l'équité territoriale, évidemment, ne devrait pas être réservée au seul quartier de la politique de la ville.
Et si on reprend le titre de cet ouvrage que vous avez dirigé pour en finir avec les banlieues ou avec la banlieue, si on reprend aussi cette expression donc de Stéphane Gatignon, péter le ghetto ou casser le ghetto, peut-être en fait que ça ne doit pas être l'unique finalité et de se dire qu'en fait il faut aussi apprendre à reconnaître dans nos discours aussi la particularité de chacun des territoires.
Oui, absolument. Et là-dessus, il y a quand même une spécificité française, c'est que la politique de la ville est saturée de discours depuis des dizaines d'années qui annoncent la fin de la politique de la ville, donc la fin des banlieues, donc le règlement définitif du problème. Le rapport Borloo ne tombe pas dans cet écueil, mais Borloo lui-même était tombé dans cet écueil en 2003 puisqu'il avait promis qu'au bout de 5 ans de rénovation urbaine, on supprimerait le ministère de la ville. Je crois que c'est un déni. En fait, c'est comme rêver à voix haute de revenir au bon temps des HLM des années 60, où les Blancs étaient majoritaires. C'est à ça que ça revient, cette idée-là. C'est ne pas prendre acte du fait qu'il y a dans la ville, de façon structurelle, des espaces qui sont des espaces spécialisés dans l'accueil de la pauvreté et des minorités ethniques.
C'était le mot de la fin. Vous proposez quoi pour le remplacer, Antoine Mercier ?
Banlieue, cité, quartier, on a du mal à nommer finalement aussi.
Oui, on a du mal à nommer. Et le vocabulaire appliqué au quartier est un vocabulaire qui sert autant à disqualifier qu'à qualifier, je dirais.
Merci beaucoup à vous, Thomas Kirschbaum, d'être passé autour de cette grande table du vendredi. Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, En finir avec les banlieues, et il apparaît aux éditions de l'Aube. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à Claire Maillot et à Clémence Marie, à Henri Leblanc et à Maxime Morin qui ont programmé et préparé cette émission avec l'aide précieuse d'Émile Boutelier et de Liana Valken. À la réalisation aujourd'hui, c'était Perry Legras, avec YouTube Diego Hack Lopez. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et vous dis rendez-vous lundi. On reparlera de l'exposition Guernica à voir actuellement au musée Picasso et dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons une républicaine. Notre invité, ce sera Daniel Salna avant cette veille de 1er mai. Très bon week-end à tous.